Comment allez-vous? Bonsoir tout le monde. Bienvenue aux amateurs de sport. Plusieurs invités de marque encore une fois ce soir qui, en plus, ont eu la gentillesse de se déplacer en studio pour venir nous visiter. Alors, on accueillera tout à l'heure nul autre que Patrice Bernier, l'ancien capitaine, l'ancien capi de l'Impact de Montréal, qui va venir nous parler d'une activité de souscription en fin de semaine. Mais en fait, c'est pas une activité de souscription comme le fait que pour chaque billet vendu en fin de semaine pour le match de l'Impact contre New York, bien, $1 ira directement à la Croix-Rouge pour les sinistrés des inondations. Actuellement. D'ailleurs, salutations à tous les gens qui luttent encore, à tous les gens qui vivent le deuil de perdre leur maison, leur objet. On est avec vous à travers cette épreuve très, très difficile-là. Aussi en studio ce soir avec nous, il vient nous parler du défi Altergo, nul autre que l'homme fort du Québec, Hugo Girard. Au-delà de ça, on va parler aussi de basketball. Mathieu Jolivet du Réseau des sports va venir nous parler des séries qui sont en cours, notamment des Raptors. Philippe Lagu va venir souligner la carrière d'Ayrton Senna, dont on, justement, c'est un événement. C'est un anniversaire, 25e anniversaire de son décès tragique aujourd'hui. Des nouvelles, de bonnes nouvelles, presque. Honnêtement, c'est presque un miracle ce qui se passe avec Adonis Stevenson, là. Et Jérémy Filosa va venir nous parler de la réhabilitation. Il y a eu des nouvelles de la part d'Yvon Michel, des nouvelles au sujet d'Oscar Rivas également, qui se prépare un gros combat. La visite de Daniel Brière ce soir, mais d'abord, accueillons Monsieur Mario Tremblay. Salut Mario!
Bonsoir Mario, toujours un plaisir mon ami.
Ben, content de t'entendre, d'avoir ton énergie à l'émission ce soir. Mmh. Je sais que tu regardes attentivement toutes les séries, mais avec un œil, avec un intérêt particulier sur la série entre les Bruins de Boston et les Blue Jackets de Columbus. Je pense que je peux dire que t'as un petit faible pour John Tortorella pis son équipe. Ça se peut-tu?
Ouais, ben non, ça se peut effectivement, parce que je trouve que depuis le début des séries éliminatoires, je trouve que Columbus joue du hockey vraiment inspiré. Puis je crois sincèrement aussi, Mario, que quand le Columbus a battu Tampa Bay, on a vu à la télévision, à un moment donné, ils ont montré là des petites séquences où John Tortorella, on voit là que c'est un entraîneur qui a beaucoup de cartes dans son jeu, et en plus d'être un excellent stratège, c'est un excellent motivateur. Puis je pense que dans le match numéro 2 contre Tampa Bay, là, ou dans le match numéro 1 après deux périodes, il avait dit aux joueurs, écoutez, boys, là, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de jouer sur les talons, jouez du hockey, ce dont on est capable de faire. Et à partir de ce moment-là, je pense que, bon...
Ça revirait de bord.
Columbus a gagné le premier match, 2, 3, 4. Alors, c'est un peu de tout ça, là, mais je pense que le leader derrière cette équipe-là est sans aucun doute l'entraîneur-chef, John Tortorella. Et on l'a vu après la victoire d'hier soir. Moi, j'aime ça, les entraîneurs qui sont émotifs. On l'a vu le derrière le banc, et des high five avec les assistants-entraîneurs. Alors, moi, c'est le genre d'entraîneur que j'aime.
Ils ont pas vraiment de faiblesse. Est-ce capable de me trouver de la faiblesse des Blue Jackets en ce moment?
Ben présentement, je te dirais, mon cher Mario, qu'il n'y en a pas beaucoup de faiblesses, parce que je te dirais que Columbus, on le vend dans les voiles. Et ce que j'ai remarqué de plus impressionnant hier, non seulement leur chance de marquer, mais c'est de la façon dont ils jouent en équipe. Et les replis en défensif qu'ils ont fait hier soir face à Boston, là, c'était tout simplement génial. On voit l'effort, et le deuxième, troisième effort est là. Et je le dis tout le temps, si vous voulez gagner des matchs de hockey dans des rencontres importantes, faut être bon partout sur la patinoire. Et c'est exactement ce que Columbus fait face aux Bruins de Boston. Par contre, Mario, ceci étant dit...
La frustration s'installe chez les Bruins, hein?
Ben, et voilà, la frustration s'installe chez les Bruins de Boston. Faut que le gros trio numéro 1 de 1 commence à produire, ce qu'on voit pas nécessairement là présentement chez les Bruins de Boston. Puis c'est l'indiscipline aussi. On en parlait tantôt avant d'aller en onde. Mario, t'avais un bon point, c'est l'indiscipline de Brad Marchand. Tu sais, je peux comprendre un certain soir où ça va arriver, mais depuis le début de cette série-là, là, c'est le match numéro 3, et on dirait qu'à chaque fois que Brad Marchand écope de mauvaises pénalités ou de pénalités stupides de sa part, je pense que Columbus en profite avec des buts marqués en avantage numérique, comme ils l'ont fait hier soir. Le but marqué par Duchesne, son cinquième but de cette série-là. Ben c'est ça, Matt Duchesne. Puis j'écoutais les propos de Mike Milbury, qui était analyste hier soir justement au réseau MNBC. T'as ramassé, mon chum, c'était même pas drôle, là.
Ah oui?
Justement, il parlait... Oh, yoyoy! On sait que Mike Milbury est un ancien des Bruins de Boston. Puis ça, effectivement, c'est un peu comme à Montréal, des fois, on trouve que Max Domi est un peu indiscipliné. Mais c'est la même chose du côté des Bruins de Boston avec Brad Marchand. Brad Marchand, là, 100 points cette saison, a beaucoup d'autres trous de talent.
Il n'y a pas besoin de faire ça.
Ben, exactement. Il se doit de se concentrer sur le hockey, faire des jeux, marquer des buts, aider les Bruins à gagner des matchs de hockey. Et présentement, il ne le fait pas à raison de son indiscipline.
On dirait que dans certains cas, il y a des gars qui sont plus forts qu'eux autres. Tu as mentionné Max Domi. Andrew Shaw pourrait correspondre à la définition aussi. Également. Puis je sais pas s'il y a d'autres noms de ton époque quand tu étais sur la glace qui te reviennent en tête. tête. Je sais pas si c'est arrivé que personne pouvait t'arrêter également, que tu vivais une émotion que, tu sais, il fallait que tu règles ça sur le coup. Mais on dirait que Marchand, c'est bizarre parce que, mais lui, ce qui est pire, c'est que souvent, c'est des gestes stupides, tu sais, comme le coup de patin sur la palette du gars. Oui. Puis, oui. Tu sais, comme, même, bon, un petit coup sur le casque hier, là, c'était
ben
pas,
oui,
c'était pas un gros coup.
Casque.
Mais il y a des caméras partout. Tu le sais que tu vas avoir de l'info pendant les 48 prochaines heures avant la prochaine game.
Mario, faut pas réveiller l'ours qui dort. C'est pas compliqué, là. Déjà que les Blues de Boston ont plein les bras. Puis ça, là, laisse-les dormir. Comme j'ai dit tantôt, fais le travail que t'as à faire. Complète tes mises en échec, c'est correct. Mais c'est des petits coups sournois de même qui motivent davantage l'adversaire. Et Dieu sait que Columbus ne sont pas obligés d'être motivés davantage.
T'es très impressionné, comme plusieurs le sont d'ailleurs. Daniel Briand nous en parlait il y a deux semaines de la qualité du jeu de David Savard. Le flanc droit des Blue Jackets va très bien. Seth Jones est peut-être, en tout cas de l'avis de certains, je sais pas si tu trouves que c'est d'en mettre trop épais à la galette, peut-être le meilleur défenseur de la Ligue en ce moment.
Ben, parmi l'un des meilleurs, là, si on fait exception de Brent Burns avec San Jose, qui avant le match d'hier soir avait 7 points en deux matchs, faut le faire quand même. Moi, je pense que Burns, présentement, est en feu du côté de San Jose. Hier, il était un peu plus tranquille, mais on y reviendra un peu plus tard. Sauf que Seth Jones, là, quelle transaction ça a été pour Columbus, sans aucun doute. Ce bonhomme-là fait tout sur la patinoire, malgré son gabarit. Tu sais, il est plus jeune, il est plus rapide, il a une bonne portée avec son bâton, il est physique.
Bon lancé.
Tortorella l'utilise sur à toutes les sauces, avantage numérique, 5 contre 5, 5 contre 4. Alors, il est un défenseur complet présentement, comme j'ai dit tantôt, surtout à son âge. Puis tu parlais également de Marc Savard. Je pense que Marc Savard, moi, en tout cas, dans tous les matchs que j'ai vus depuis le début des séries, il m'impressionne vraiment. Il m'impressionne. Pourquoi il m'impressionne? Parce que, en raison de sa vivacité, de son ardeur au travail, et il bloque des lancers, Mario, ça n'a pas d'allure, à des avantages numériques. Il a pas peur de se faire blesser. Il a toujours la face vers la rondelle. Alors, c'est un gros atout, finalement, pour Columbus, d'avoir ces deux gros bonhommes-là, les deux gros droitiers à défense. Ils font vraiment un travail remarquable.
Quelle équipe t'impressionne le plus en dehors de la série Boston-Columbus, là, parmi les six autres qui sont encore en vie, Mario, ou quelle autre série pour laquelle tu as le plus d'intérêt, si je te résume ça simplement?
Ben écoute, j'aime bien la série. Il y en a qui trouvent ça plate, là, la série Caroline contre les Islanders.
Oui,
c'est pas des gros pointages, mais quand même, je trouve que il y a beaucoup d'ardeur au jeu. Les deux équipes ferment le jeu. Évidemment, moi la Caroline, je te l'ai dit au début de cette série-là, j'ai choisi la Caroline. Pourquoi? Parce que la Caroline, on le vend dans les voiles. On a vu l'autre soir, leur gardien numéro 1 est blessé. McElhinney rentre dans le portrait, fait des arrêts vraiment magistrales. Alors, c'est un peu...
Ça va être l'enfant tout à l'heure, là. Le match commence dans quelques instants, là, tout un accueil. Les autres, ils ont gagné leur première ronde, ils sont pas revenus à la maison depuis ce temps-là. Là. Puis ils mènent 2-0 dans leur série, Mario. C'est le fun de voir les gens virer fou un peu dans les amphithéâtres aux États-Unis, dans ces villes-là, hein, où ils sont pas habitués au succès.
Ben puis d'autant plus, mon cher Mario, comme on a mentionné la semaine dernière, souviens-toi, il y a quelques années, en Caroline, les arénas sont vides en Floride et tout ça. Mais là, maintenant, lorsque l'équipe commence à gagner, tiens, comme par hasard, les arénas se remplissent. Alors, qu'est-ce qui fait foi de tout? C'est la victoire. Puis c'est malade, là, présentement, ce qui se passe en Caroline. C'est du jamais vu, là. Je vois des images, des partisans qui sont toutes... Je sais pas combien de partisans n'auront pas de chandail rouge ce soir du côté de la Caroline, mais c'est vraiment impressionnant. Je pense que M. Bettman, de son côté, doit être vraiment content de voir que, bon, enfin, il y a un regain de vie du côté de la Caroline. Le gâteau lève, exactement.
Oui, vraiment. Moi, j'ai envie de te dire que la série entre l'Avalanche Colorado et les Sharks de San Jose, là, je la trouve très divertissante. Je trouve que c'est du hockey pas mal intéressant. J'aime le fait de voir le petit Samuel Girard également avec Colorado évoluer, l'arrivée de Cale Makar. Puis San Jose aussi, ils ont une histoire, ces gars-là. Il y a plusieurs vétérans. Il y a Vlasic contre McKinnon. As-tu vu son but hier? Même si l'Avalanche a perdu, là, quelques enjambées, une passe de Brent Burns qui est interceptée presque deux zones plus loin. Sur une fin de désavantage numérique à ce moment-là, c'était assez impressionnant de voir Colorado, puis surtout tu sais, quand tu dis te revirer sur un 10 cents sur la glace, McKinnon, c'était assez impressionnant comme but, même dans une course perdante.
Mario, c'est certain que cette série-là, d'après moi, là, peut-être après Boston, Columbus, c'est la série la plus enlevante. On prend toi par la Caroline et les Islanders. Ça, c'est la petite bière comparativement à Colorado et San Jose. Sauf que le plus important, lorsque tu reviens à la maison, d'autant plus que Colorado avait égalé cette série-là 1-1 à San Jose. Et Dieu sait que c'est tellement difficile de gagner à San Jose, comme dans d'autres amphithéâtres. Mais hier soir, l'Avalanche s'est tirée dans le pied un peu. Tu sais, ils ont tellement créé de revirements, surtout en première période. Et le gros défenseur Eric Johnson a tellement été mauvais hier soir. Alors, c'est un peu ça. Tu peux pas alimenter l'adversaire continuellement en créant des revirements dans des matchs aussi importants. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, justement, bon, ben, San Jose est revenu hier et ils ont gagné ce match-là 4-2. Puis, tu sais, on parle d'éléments clés dans des rencontres. Que dire de Logan Couture? Logan Couture, hier soir, là, le premier but qu'il a marqué, quelle main extraordinaire. Il a pris la rondelle du côté droit, elle a ramené du côté gauche, bang! Dans le haut de la partie haut du filet. Alors,
ouais.
Écoute, il y a 9 buts marqués en 10 matchs, Mario. Quand on parle que de joueurs qui vont clincher dans les séries éliminatoires, mon Dieu Seigneur, Logan Couture, qu'à dire de mieux pour l'instant, là?
Ça pourrait-tu être l'année des Sharks comme ce fut l'année des Capitals l'an passé? Ça fait assez longtemps qu'ils ont une bonne équipe. Prends Saint-Louis également. Tu sais, ça fait des années que c'est des marchés qui ont des équipes compétitives. Ça nous a goûté à la finale une fois. Saint-Louis, on les a pas vus là, ça fait quelques décennies. Oui. Mais penses-tu que c'est l'année des Sharks? Vois-tu ça dans les as avec la victoire controversée contre les Knights de Vegas?
Mm-hmm. Mario, tu sais, lorsqu'on parle de San Jose, ils ont tellement un bon mélange de vétérans puis de jeunes, là. Tu sais, puis je pense que c'est notre confrère Mathias Brunet qui en parlait ce matin, là, la cuvée de 2007 du côté du repêchage de San Jose. Puis Logan Couture faisait partie de cette manne-là en 2007. Alors, il est là. Fait que là, les jeunes ont rentré, mais les vétérans de cette équipe-là produisent à un train d'enfer. Alors, les jeunes, eux autres, pas compliqué, ils suivent la parade, mais ils sont capables également d'avoir une contribution en attaque. Alors, puis le gardien fait le travail. Tu sais, en début des séries, on était tout un peu inquiets. Comment va-t-il se comporter? Non, mais là, il fait le travail. Mais sans oser. Mais encore une fois, tantôt, je te parlais de Brent Burns. Écoute, Burns, là, écoute, c'est une machine, ce bonhomme-là. Tu sais, je l'ai dirigé à Minnesota il y a plusieurs années.
Oh oui.
Mais de le voir encore performer de cette façon-là, tu sais.
On dirait qu'il s'améliore depuis le début des séries.
Mais Mario, sa grosse qualité, tu sais quoi? Il aime ça jouer au hockey. Tu sais, malgré son allure un peu de je sais pas comment dire ça, de clochard, là, avec sa grosse barbe, la grosse barbelette, puis pas dedans, là.
Ouais.
Mais ça, c'est l'extérieur. Mais l'intérieur de ce bonhomme-là, il vient à l'aréna pour jouer au hockey. Puis c'est ça qui fait la grosse différence, je pense.
Et on dirait que les gars veulent pas. Il y a tellement de noyaux de vétérans importants du côté de San Jose qui jouent ensemble depuis longtemps. Je sais pas si les gars en mettent un petit peu plus. Comme peut-être les Caps voulaient se réunir autour d'Ovechkin. Je sais pas si Thornton est un de ces leaders-là pour qui on veut gagner parce qu'il en reste moins qu'il en restait, là, rendu à 39 ans. Crois-tu à ça, cet effet-là de jouer les uns pour les autres?
Voilà, c'est sûr, Mario, j'y crois certainement. Puis t'as un excellent point. Puis d'autant plus, à un moment donné, tu sais, les gars, là, ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble. Puis à un moment donné, bon, ben, il échoue. À un moment donné, peut-être, comme t'as dit tantôt, est-ce que ce sera l'année des Sharks, peut-être. Parce que présentement, d'avoir été gagné le match à Colorado hier soir, moi, je m'attendais à ce que Colorado gagne ce match-là. Et sais-tu que les équipes qui remportent le match numéro 3, c'est 67% des gains au cours d'une série. Alors, si tu gagnes le match numéro 3, tu as 67% de chances de gagner la série. Et c'est exactement ce que San Jose a fait hier soir.
Quand tu regardes les séries maintenant rendues en deuxième ronde et que tu penses aux Canadiens, puis à l'équipe de Marc Bergevin, puis avec quoi on va revenir la saison prochaine, qu'est-ce qui te vient en tête quand tu es tenté de faire des comparaisons positives ou négatives, à savoir on a-tu quelque chose d'intéressant dans les mains ou il y a une méchante coche ou une coupe de marche à grimper pour rejoindre le calibre auquel on assiste là?
Ben définitivement, moi, de ce que je vois dans les séries éliminatoires, puis t'as raison, je suis content que tu me poses la question. Je compare ça avec le Canadien de Montréal, définitivement que ça va prendre un autre défenseur. Un défenseur qui va être un peu un gros bon défenseur pour jouer peut-être avec Shea Weber, mais dans le top 4. Puis je pense également aussi du côté du Canadien, il faut voir se grossir. Je vois là comment c'est physique. Je regarde Columbus jouer, comment ils sont gros, sont efficaces. On l'a vu contre le Canadien vers la fin de la saison quand ils ont ouvert la machine en deuxième période. Wow! Le Canadien avait vraiment de la difficulté à suivre le rythme. Alors moi, je pense que du côté de Marc Bergevin, c'est ça. Ça va prendre un ou deux gros attaquants qui sont capables de patiner. Alors, ce sera à lui maintenant de faire les transactions voulues. Mais il faut absolument que ce club-là se grossisse parce que sinon, de ce que je vois dans les séries éliminatoires, ça prend des hommes pour jouer là-dedans.
Ouais, je pense qu'on n'a pas envie d'argumenter ben avec ce que tu viens de nous dire là, Mario. Je pense que ça nous pète en pleine face. Puis d'ailleurs,
là, ça n'ose pas. Regarde Colorado et dans les toutes là, même la Caroline. La Caroline, c'est pas une petite équipe là.
Ils ont, ils ont deux gars en bas de six pieds, Mario. Bon. Tiens, t'avais déjà la réponse. Ils ont deux gars en bas de six pieds. Puis c'est pas deux, c'est deux bons joueurs. Sébastien Nao et Terry Vinen à 5 et 11.
Ouais. Tu sais. Mario, y a pas, on n'a pas le choix, je te le dis, puis c'est difficile dans les séries, c'est des, gagner la Coupe Stanley, là, c'est pas facile, c'est 4 séries, 4 de 7, alors ça prend, c'est des séries pour hommes, là. Faut pas se tromper avec ça, là.
Tu parlais de l'importance, peut-être, d'aller chercher un défenseur, un gros gars capable de jouer, évidemment, là, c'est, ça va avec, je sais pas pourquoi on le dit, c'est sûr que ça prend un gars capable de jouer, là, on veut pas un chaudron, est-ce que un attaquant comme Matt Duchesne, là, te fait saliver en ce moment avec les séries qu'il connaît du côté de Columbus, puis je sais pas si vraiment il va tester le marché ou si Columbus va essayer de le retenir de la manière qu'il joue là.
Ben moi personnellement, Mario, je suis agréablement surpris de voir comment Matt Duchesne se comporte. Moi, j'étais pas nécessairement des fois un fan de Matt Duchesne. Tu sais, on l'a vu, c'est passé à Colorado, des chicanes à l'interne, une chicane dans le vestiaire. Est-ce que c'est McKinnon? C'est-tu lui? S'en vient à Ottawa. Tu sais, il y avait beaucoup de points d'interrogation dans le cas de Matt Duchesne.
Ouais, l'histoire là, du Uber aussi, tu te rappelles, ben, il était dans la gang.
Ben ça aussi, exactement. Alors là, maintenant, a-t-il trouvé sa niche? Admettons que Panarin, moi je pense que Panarin va quitter pour aller en Floride. Là, il va aller jouer avec son chum Barkov. Alors ça va laisser beaucoup de place et d'argent du côté de Columbus pour signer Matt Duchesne. Alors, s'il est heureux là, il connaît des bonnes séries éliminatoires qui s'en vont en ronde 3 ou peut-être même en finale de la Coupe Stanley, peut-être que ça va le forcer ou à aimer Columbus pour qu'il puisse signer un nouveau contrat là. Puis moi, je reviens souvent là-dessus, puis je suis un peu tanné avec ça. Je serais très surpris que Matt Duchesne s'en vienne à Montréal avec toute la pression qu'il va avoir sur les épaules, avec un nouveau contrat, un long contrat. J'espère me tromper, mais si jamais Matt Duchesne aimerait venir jouer à Montréal, je pense que le Canadien devrait l'accepter à bras ouverts.
Jusqu'à quel montant tu serais prêt à aller sur une entente de 7 ans? C'est probablement ça qui va être en mesure d'aller chercher.
Ouais, regarde, il n'y aura pas le choix, ça va être autour de 10 millions.
Ah oui, tant que ça, tu penses?
Ben, moi, je pense que ça va être entre 9 et 10, mettons, là.
La surenchère va faire en sorte qu'il va avoir le gros bout du bâton.
Est-ce que lui est assis dans le siège du conducteur présentement? La réponse est oui. Tantôt, je parlais de Columbus, mais j'ai oublié de parler de Bobrovsky. Bobrovsky, c'en est un autre, ce qui est absolument incroyable. Il est dans une forme resplendissante, il est au sommet de son art, il a le goût de jouer au hockey, ses déplacements sont bons, il est agressif, puis on l'a vu encore sauter de joie après la victoire hier soir. Alors, il y a un paquet de joueurs, là, tu sais, puis dans le fond, moi, je dis bravo, parce que ce sont des gars qui sont capables de malgré leur statut de joueur autonome sans compensation, d'être capables de persévérer et de vouloir gagner. Panarin, Duchesne, Bobrovsky, bravo. Alors, bravo à ces gars-là, mais bravo à leur entraîneur qui a été capable de peser sur le bon bouton.
Et on n'a pas parlé des Blues et des Stars. La série 2-1 en faveur des Blues de Saint-Louis. Quatrième match de cette série-là ce soir. Dans quelques instants également, les Islanders sont en Caroline. Mais Blues, Stars, qui vois-tu remporter cette série-là, Mario?
Ben moi, j'ai choisi les Blues, puis je pense que je continue à prendre les Blues. Ils sont tellement difficiles à jouer contre, Saint-Louis, là. Puis je vois encore des affaires des fois après les matchs, des interviews, quelques images dans le vestiaire des Blues à Saint-Louis. On voit qu'il y a une chimie absolument extraordinaire. Puis la raison pour laquelle j'ai choisi les Blues, c'est en raison de leur jeune gardien Bennington. Encore une fois, on a vu Bennington l'autre soir contre les Stars de Dallas. Tu sais, dans le fond, Mario, on regarde ça. Si on regarde la performance des gardiens de but de toutes les équipes dans les séries éliminatoires, Bennington, qu'on le veuille ou non, oui, les Blues jouent bien, mais il est la pierre angulaire de cette équipe-là pour leur succès qu'ils connaissent dans les séries éliminatoires.
Il n'y a aucun doute là-dessus. En terminant, j'ai envie de te lancer une question. Quand on regarde là, l'exercice mathématique auquel doivent se livrer les Leafs de Toronto, est-ce qu'on se dira d'une couple d'années que c'était une si bonne idée que ça d'avoir signé John Tavares à 11 millions de dollars par année compte tenu du fait qu'on va être obligé de sacrifier des jeunes en cours de route?
Mario, ta question est tellement pertinente, là. Puis je pense que, admettons, tu sais, des fois, on a parlé de faire des offres hostiles à quelque part. Mais admettons que quelqu'un fait une offre hostile à Marner, là.
Oui,
c'est pas impossible non plus.
Non.
Il aurait été mieux peut-être de se concentrer sur ce qu'il y avait et aller chercher peut-être un ou deux défenseurs. Ils l'ont fait avec un défenseur, là. Mais peut-être on aurait dû peut-être penser la stratégie un peu différente. Puis je me souviens d'avoir dit Vincent Danfousse, puis Vincent était parti à rire de moi en disant, j'ai dit, moi, là, je suis pas nécessairement un fou de lui. Je suis pas fou de lui, là. Mais Vincent dit, ben voyons, là, Mario, il ramasse 100 points par année. Mais regarde dans les séries éliminatoires, est-ce qu'il est capable d'élever son jeu d'un cran?
Pas sûr.
Mais moi non plus. Puis les Islanders, c'était pareil. Et avec Toronto, c'est la même maudite histoire.
Mario, sur ce, toujours un plaisir de t'entendre. Je te souhaite une excellente soirée. On se reparte bientôt, mon cher.
OK, mon chum. Bonne soirée.